Alléluia. Soyez bénis ce matin. On est bénis d'être avec vous ce matin. Mon épouse n'est pas là ce matin. Elle a pogné un petit rhume. Mais elle va s'en sortir, c'est un petit rhume. C'est pas une grippe d'homme. C'est pas une grippe d'homme, elle va s'en sortir. Ça fait que ça va bien aller. Pendant les louanges ce matin, il y a un verset qui venait dans mon cœur, c'était dans l'Apocalypse, ça dit « Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute maison, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants. Ils se prosternaient sur leur face devant le trône et ils adoraient Dieu et louaient en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. » Amen. Notre but, c'est on veut le louer, on veut l'adorer, on veut le servir. On veut prendre du temps dans sa présence. Et le premier but de se réunir ensemble, c'est d'être dans sa présence. C'est de le louer. C'est de l'adorer. C'est de s'encourager. Dans Actes 2, 46, ça disait, « Ils étaient chaque jour, tous assidus, ensemble, au temps. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, trouvant grâce, auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. » Amen. Notre but, en tant que croyant, c'est cela notre but. Amen. C'est d'adorer Dieu. Ce matin, je vais vous parler un petit peu de Joseph. Pourquoi je vais vous parler de Joseph? Bien, souvent, dans le temps des fêtes, on parle de la naissance de Jésus, on parle du voyage à Bethléem, on parle des anges qui annoncent sa venue. Mais moi, je n'ai jamais entendu parler de Joseph. J'ai jamais entendu ça, une prédication sur Joseph. Fait que Joseph, on sait peu de choses de lui. C'est un gars, il ne parle pas. Hein, c'est un vrai homme. Il ne parle pas. David, on voit, tu sais, dans les psaumes, il se pogne avec Dieu, il y a toutes sortes d'interactions. Moïse parle à Dieu. Joseph, avec le rôle qu'il avait, il ne parle pas. Il ne dit pas un mot. On n'entend pas Joseph parler. Aussi, Joseph, son rôle, il y avait un rôle, on pourrait dire effacé. On ne voit pas un Joseph flamboyant dans l'histoire. On voit un Joseph qui est effacé. Mais combien indispensable. Combien indispensable. Et comment des fois dans nos vies, on peut avoir un rôle effacé, mais combien indispensable devant Dieu. Et c'est ça qui m'a parlé un petit peu dans la vie de Joseph. Puis on va prier le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Seigneur, ce matin, on va amener ta parole, Seigneur, humblement devant toi, Seigneur. Afin, Seigneur, que ce ne soit pas juste des paroles, mais que ce soit ton nom qui soit glorifié, Seigneur. Et que ton nom soit élevé, Seigneur. Afin qu'on apprenne davantage à te connaître et à t'aimer à travers toutes choses, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Je vais parler de Joseph. Joseph, son nom, ça veut dire « Dieu ajoutera ». Dieu ajoutera. Puis moi, je vois Joseph un petit peu comme une valeur ajoutée. Comme si Dieu aurait ajouté Joseph dans le but que Joseph soit effacé, mais indispensable, un aide pour Marie, soit un chemin tracé afin que Jésus puisse se manifester. C'est un peu comme ça que je vois Joseph. Afin que le plan de Dieu puisse s'accomplir parfaitement. Son nom veut dire « Dieu ajoutera ». Puis moi, ça me frappait un peu dans son nom, qui veut dire « Dieu ajoutera », parce que dans notre génération d'aujourd'hui, tout ce qu'on entend parler, je ne sais pas si c'est ça autour de vous, mais tout ce qu'on entend parler, c'est de valeur ajoutée. Si tu t'en vas pour t'acheter une maison, on va dire « Ah, oh, il y a une piscine, c'est une valeur ajoutée. Ah, oh, il y a un balcon, oh, c'est une valeur ajoutée. Quelle sorte de valeur ajoutée qu'il y a pour ta maison pour qu'on puisse la vendre? » Tout le monde nous parle de valeur ajoutée. Puis même si tu t'en vas pour trouver un travail, ils m'ont même posé la question, ils ont dit « Monsieur Lavoie, si on vous engagerait, quelle valeur ajoutée vous seriez pour notre compagnie? » Ça, c'est la question qui tue. Moi, je répondais tout le temps, « Bien, je suis un bon travaillant, puis je suis honnête. » Là, il m'a regardé en voulant dire, « Bien, on veut ça de tous nos travaillants. » C'est pas une valeur ajoutée. C'est pour ça que j'ai été travailleur autonome une partie de ma vie. Ils ont même sorti une émission dernièrement à Tout TV qui s'appelle « Valeur ajoutée », avec Véronique Loutier. Puis là, ils font venir des invités, puis ils discutent d'une valeur dans leur vie. Ça peut être l'humilité, ça peut être le courage, ça peut être la foi. Une qualité qui ressort dans leur vie puis qui les a aidés dans des situations données. Mais quand j'écoutais ça, je me disais, ils sortent des qualités, mais c'est des qualités juste humaines qui vont faire ressortir des qualités qui vont flatter leur ego. Tandis que les qualités que Dieu a placées en Joseph, ce n'est pas pour flatter Joseph, mais c'est pour que Joseph serve à la louange de sa gloire. Amen. Les qualités que Dieu a placées dans nos vies, la valeur ajoutée, si on peut dire, ce n'est pas pour qu'on se glorifie puis qu'on en fasse une gloire, mais c'est pour qu'on s'en serve à la louange de la gloire de Dieu. Amen. C'est ça que ça dit dans Éphésiens 1:6. Afin que nous servions à la louange de sa grâce, à la louange de sa gloire. C'est ça que Dieu a déterminé pour nous. Et c'est ça que Dieu voulait pour Joseph. On va voir les qualités que Dieu a placées dans Joseph, mais ce n'est pas pour que Joseph se glorifie, mais c'est pour qu'il s'en serve pour la gloire de Dieu, pour l'accomplissement du peuple de Dieu, pour l'accomplissement de la promesse de Dieu. Matthieu 1, « Or, la naissance de Jésus-Christ arriva ainsi. Sa mère, Marie, étant fiancée à Joseph avant qu'ils fussent ensemble, se trouva enceinte par l'Esprit-Saint. Joseph, son mari, étant juste, et ne voulant pas faire d'elle un exemple, se proposa de la répudier secrètement. Mais comme il méditait sur ces choses, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe, disant, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre auprès de toi Marie, ta femme, car ce qui a été conçu en elle est de l'Esprit-Saint. Et elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. » Or, tout cela arriva, afin que fût accompli ce que le Seigneur a dit par le prophète, disant, « Voici, la Vierge sera enceinte et enfantera un fils, et on appellera son nom Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » C'est merveilleux. Quel beau récit. Dans le temps de Joseph et de Marie, dans le temps d'Israël, dans ce temps-là, les mariages n'étaient pas comme aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, on décide de se marier, on se fiance, on se prépare, on se marie. Mais eux autres, un an avant, ils se rencontraient, ils se fiançaient. Et lorsqu'ils étaient fiancés, c'était comme s'ils étaient déjà mariés. Hein? Puis là, il y avait un an pour se retourner chez eux, l'époux, puis pour se préparer, afin qu'un an après, ils puissent vraiment célébrer le mariage. Ça veut dire qu'ils étaient quasiment déclarés mariés. mais seulement que ce n'était pas légalement fait encore. Puis là, on voit que c'est ça qui avait été fait avec Joseph et avec Marie. Les fiançailles avaient été prononcées, donc légalement, ils étaient considérés pratiquement comme mariés. Et oups! Joseph a su qu'elle était enceinte du Saint-Esprit. C'est sûr que c'est probablement Marie qui a dit. Parce que c'est quelque chose. Oups, problème. Alors, imaginons-nous Joseph, hein, quand il a connu Marie. Il devait regarder Marie tout le temps à l'église. Je vais marier. Tu sais, puis on fait des projets avant de se marier. Hein. Il devait dire, oh, la petite Marie, je l'aime bien. Hein. On va se marier, m'envoie mon petit commerce. Hein. Moi, je suis charpentier. On va être correct. On va se bâtir une petite maison. Hein? On va avoir des enfants. Ça va être merveilleux. On va être entouré de notre famille. On va grandir. Puis, hein? On se fait des projets avant de se marier. Mais les autres, il y a certainement qui avaient fait des projets comme ça. Oups! Jésus arrive dans le décor. Hey, Jésus, ça change une vie des fois. Il n'était pas encore marié. Puis ça a changé leur vie totalement. Hein? Ça a changé. Comment est-ce qu'il y en a d'entre vous que, avant d'arriver au Seigneur, vous aviez des plans? Puis tout d'un coup, Jésus est arrivé dans vos plans. Puis vos plans ont changé totalement. Et j'en connais, moi, que Dieu a changé le plan totalement. Il y en a qui voulaient faire des carrières, s'en aller dans d'autres pays. Tout d'un coup, Jésus est arrivé, paf, changé leur vie totalement. Imaginons-nous ici Joseph. Les plans de Dieu, tellement différents. Hey, Joseph ne s'attendait certainement pas à ce que Marie soit enceinte. Il ne s'attendait certainement pas à être père adoptif, hein, parce que ce n'est pas lui le père. Il ne s'attendait certainement pas de fuir en Égypte. Il ne s'attendait certainement pas de rester à Nazareth. Jésus, ça change une vie. Ça change une vie. Hey, on peut comprendre dans cette situation-là que Joseph était troublé. Puis il réfléchissait aux moyens de s'en sortir, ça nous dit. Hein? Il réfléchissait aux moyens de s'en sortir. Le verset 19, ça dit, « Or Joseph... » Oh! Ah, j'ai sauté quelque chose. Le verset 6, ça dit, et le verset 19, ça dit, on va le lire. Joseph, homme de bien, ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Pourquoi que mon verset est apparu subitement? C'est bizarre, hein? OK. La technologie, hein? Joseph, il y pensait. C'était un homme pieux, nous dit la Bible, un homme juste. Un juste selon la loi de son temps. Mais vu qu'il était un homme juste selon la loi, il savait que l'adultère, parce qu'elle était enceinte, puis lui, il savait bien qu'il n'y avait pas touché là. Hein? Il savait que c'était puni de mort. Mais même si ça n'aurait pas été jusque-là, il ne voulait pas la répudier parce que sa réputation aurait été salie, ça aurait été fini pour elle. Tout un dilemme. Et si Joseph était un homme juste, un homme de bien, il réfléchissait. Réfléchir, c'est quelque chose qu'on doit faire lorsqu'il arrive des situations qui ne sont pas faciles. Réfléchir. Rien de hâtif. Combien de fois dans nos vies, les décisions prises sur le coup de l'émotion, les décisions prises rapidement, les décisions sans avoir réfléchi, les décisions prises sur le coup de la colère, comment des fois ça n'accomplit pas la volonté de Dieu? Réfléchir. Joseph réfléchissait. Ecclésiaste 7, 14. Ah, on l'a. Au jour du bonheur, sois heureux. Mais au jour du malheur, réfléchis. réfléchis. Plusieurs versets nous parlent de ça. Le proverbe 20, ça dit, « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. » Celui qui réfléchit sur les choses. Joseph réfléchissait. Sur le coup de la colère, elle peut dire, « On va casser ça, ces affaires-là, puis Marie, elle s'arrangera. » Puis, le psaume 119, 59, ça dit, « Je réfléchis à mes voies. » Réfléchir. Prendre le temps. Prendre le temps. Laisser Dieu agir. Moi, je sais que c'est vrai, parce que moi et ma femme, on s'est séparés. Mais si on avait réfléchi correctement, on s'en est parlé lorsqu'on est revenu ensemble. Si on avait réfléchi correctement, je ne pense pas qu'on aurait fait ça. Mais on a fait des choses rapidement. Tu fais des choses sur le coup de la colère. Puis souvent, tu regrettes les choses. As-tu un vin, ça dit, comme il y pensait. Comme il y pensait. Il est en train d'y penser. C'est-à-dire, moi, là, je ne suis pas pour continuer comme ça, puis on va régler ça. Voici un ange du Seigneur lui apparu en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Il est en train de réfléchir. Et lorsqu'on réfléchit, lorsqu'on pense aux choses, Dieu amène une réponse. Dieu amène une réponse. Dieu a amené la réponse à Joseph. Dieu a amené une réponse. Joseph, ici, venait de réaliser que même si tout ne se déroule pas comme prévu, Dieu a un plan. Dieu a un plan. Et Dieu est là, puis comme on l'a lu dans le premier verset, Dieu est là, puis son nom le dit, Emmanuel avec nous. Amen. Dieu est là et Dieu a un plan. Puis même des fois dans nos propres vies, des fois ça se déroule pas comme comme c'est prévu. Jésus a changé des choses, a changé les plans. Mais Dieu est là. Dieu a un plan. Et même si ça va pas toujours bien, même s'il y a de la difficulté, notre Dieu est là et il y a un plan pour nous. Amen. Je regardais Joseph, le premier point, c'est que Joseph était un homme pieux, un homme juste. Puis, dans l'Ancien Testament, souvent, les justes, eux, c'est souvent, ils vivaient comme pour accomplir la volonté de Dieu, mais eux, souvent, ils vivaient selon les commandements, mais ils vivaient en espérant la délivrance, en espérant les promesses de Dieu qui allaient s'accomplir. Nous, frères et sœurs, on est déclarés justes par Dieu. Amen. On est juste devant Dieu. Et souvent, beaucoup de gens l'oublient. Et ce matin, je voudrais vous le faire réaliser une autre fois que devant Dieu, on a été déclarés justes. Et trop souvent, on l'oublie, on vit sous une condamnation, mais on est juste devant Dieu. On est juste devant Dieu. Joseph était un homme juste dans son temps, mais nous, enfants de Dieu, nous sommes justes. On a été déclarés justes devant Dieu, non pas par nos propres œuvres ou en accomplissant la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Amen. Qui a payé le prix de nos péchés par sa mort sur la croix. On a été déclarés justes. Et on est en règle avec Dieu. Et c'est bon de s'en souvenir, parce que beaucoup de fois, je parle avec des croyants, ils oublient. Ils se sentent encore coupables et ils oublient qu'on est juste. Ça dit, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui était en Jésus-Christ. Amen. Ne l'oublions pas. N'oublions pas. Joseph était un juste. Un juste. Il n'avait pas un style extraordinaire. Il ne parlait pas beaucoup. Mais Dieu voulait l'utiliser en tant que juste. Amen. Et Dieu veut nous utiliser aussi en tant que juste, parce qu'il nous a donné sa justice. Amen. Il y a un verset que j'aime beaucoup. Ça dit, « Les justes croissent comme le palmier. » Ah! Je ne l'avais pas lu vraiment, hein? Je ne l'avais pas lu au complet, j'avais lu. Mais le gros était là, hein? Les justes croissent comme le palmier. Un jour, je lisais ça souvent dans ma Bible, les justes croissent comme le palmier. Mais un jour, je suis allé dans un endroit, puis il y avait une petite revue, puis c'était marqué « Le chrétien palmier ». Je ne m'occupe pas juste des tomates, moi. Je lis d'autres choses. Fait que là, c'était marqué « Le chrétien palmier ». Fait que là, j'ai dit « C'est quoi ça, un chrétien palmier? » Fait que j'ai lu ça. Puis là, ça donnait une description entre le palmier et le chrétien. Ça disait, premièrement, le palmier, il est toujours tourné vers le ciel, puis il est nourri par une source intérieure. Mais ça devrait être la description d'un croyant. Nos vies devraient être tournées vers le ciel, mais on devrait être nourri par une source intérieure dans nos propres vies. Hein? Puis deuxièmement, ça disait, le palmier, c'est un arbre royal. C'est un arbre royal parce qu'il y en a dans toutes les cours des rois. C'est un arbre qui existe depuis la nuit des temps. C'est un arbre qui est royal. Et nous, dans 1 Pierre 2, ça nous dit, nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Amen. On fait partie de la cour des rois. Du roi des rois, du seigneur des seigneurs. Après ça, ça disait, le palmier, ses racines sont en faisceau. Ils ne s'en vont pas juste comme ça dans la terre, ils se tissent en faisceau pour aller plus profondément dans la terre et plus être ancré et être enraciné plus profondément. Mes frères et sœurs, Colossiens 2:7, ça dit que nous aussi, on doit être enraciné et on doit être fondé en Jésus-Christ afin que nos racines spirituelles soient de plus en plus enracinées et profondes dans la foi, afin qu'on puisse vraiment en retirer toute la sève, toute la saveur. Ça dit aussi contre le palmier, contrairement à tous les autres arbres. Tous les autres arbres qu'on connaît, Il y a l'arbre, il y a le tronc, il y a l'écorce, puis la sève monte entre le tronc et l'écorce. Le palmier, la sève monte au cœur du palmier. Elle ne monte pas à l'extérieur, mais la sève monte au cœur du palmier. Au cœur du palmier. Ça représente que notre vie, nous, frères et sœurs, elle doit venir au cœur de notre vie. C'est le Saint-Esprit qui doit remplir notre cœur, qui doit montrer de notre cœur, notre force doit venir de l'intérieur. Doit venir de l'intérieur, doit grandir de l'intérieur. Les Bédouins, les autres, ils disent, ils voient le palmier comme ils disent, il vit les pieds dans l'eau puis la tête au soleil. C'est ça qu'ils disent quand ils voient un palmier. Ah, ils disent, il vit les pieds dans l'eau puis la tête au soleil. Mes frères et sœurs, ça représente que nous, vivre les pieds dans l'eau, ça veut dire vivre dans la parole de Dieu. Parce que l'eau, ça représente la parole de Dieu dans la Bible. On doit vivre les pieds dans l'eau de la parole. C'est pour ça que ça dit dans Psaume 1, on doit être comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. On doit être planté la tête au soleil, on doit avoir la tête dans le ciel. Parce que déjà, on est assis dans les lieux célestes spirituellement en Jésus-Christ et tranquillement, notre espérance doit rattraper. Hein? Notre vie doit rattraper où notre espérance est rendue, assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il vit de l'intérieur. Il y a un cœur tendre. Le cœur du palmier, ça se mange. Hein? On doit avoir un cœur tendre. Un cœur tendre pour les autres. On doit avoir un cœur pour Dieu. Les Bédouins, lorsqu'ils arrivent, ils disent « Ah, un oasis, des palmiers, il y a de la vie! » Frères et sœurs, dans notre société, des fois, les gens devraient dire, « Ah, un chrétien, il va y avoir de la vie! » Hein, c'est vraiment ça qu'ils devraient dire. On devrait donner soif. On devrait donner soif. Soif. Les justes n'abandonnent jamais. Joseph aurait pu abandonner, voyant les difficultés du plan de Dieu pour sa vie, aurait pu dire, hey, « Je me retire, moi, c'est trop pour moi. C'est trop pour moi. » Mais le Proverbe 24:16, ça dit, « Sept fois le juste tombe et il se relève. » On n'a pas vu, il ne nous parle pas des crises de Joseph quand tout ça est arrivé. Il nous parle juste qu'il est inquiet, il nous parle juste de ses doutes. Mais certainement que ça n'a pas été facile. Certainement que ça n'a pas été facile. Mais le juste, ça prenait certainement un ange qui apparaît en songe pour vraiment le décider à avancer pour Dieu. Mais Dieu répond. Premièrement, le premier point, c'était ça, Joseph, l'homme juste. Le deuxième point, Joseph, l'homme qui obéit. La première fois que l'ange lui était apparu, Joseph avait obéi. Il avait pris Marie avec lui. Il avait pris Jésus avec lui. Puis là, ici, après la fuite des mages, tu vois, il y a encore un problème. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur lui apparut et dit à Joseph, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et se retira en Égypte. Une autre fois, quand Hérode fut mort, encore un ange du Seigneur apparut ensemble à Joseph. Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Plusieurs fois, Dieu est obligé. Plusieurs fois, l'ange est obligé d'apparaître à Joseph pour parler à Joseph. Joseph, ça nous dit dans l'histoire que Joseph a obéi tout le temps. Joseph a obéi par 3-4 fois. Je le vois dans les yeux de certaines. Il y en a qui vont dire, Marie, t'es chanceuse, un homme qui obéit tout le temps. Il ne faut pas penser de même. Obéir sans tout comprendre, ça demande de la confiance. Ça demande de la confiance en Dieu. Obéir sans tout comprendre. Dans notre société où on veut tout comprendre avant de faire les choses, on veut tout savoir avant d'avancer, obéir sans comprendre, ça demande de la confiance. Ça demande de la confiance. Joseph, tant qu'à moi, aurait pu être dans le chapitre de Hébreux 11. Hein? On aurait pu lire. C'est par la foi que Joseph partit sans savoir où il arriverait. C'est par la foi que Joseph partit s'établir à Nazareth. Hein? On aurait pu lire ça. Tellement son histoire est vraiment... C'est pas facile. C'est pas facile. Obéir, des fois, ça coûte quelque chose. Obligé d'abandonner la famille, obligé d'abandonner son confort, ses amis. C'est tout un sacrifice. C'est tout un sacrifice. Dieu est fidèle et Dieu va les protéger, mais il y a des coûts énormes. Faire confiance à Dieu dans des moments comme ceux-là, c'est pas facile. C'est pas facile. Il aurait pu faire comme plusieurs hommes dans la Bible où on a déjà vu. Hein, imaginons-nous... Le premier exemple, c'est le peuple d'Israël dans le désert. Hein, il dit, on se souvient des poissons qu'on mangeait en Égypte, puis qui ne nous coûtaient rien, des cocombes, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Il dit, on est tanné de la manne, on va retourner en Égypte. On était bien mieux en Égypte. Hein? On est tanné de la manne. Il aurait pu faire comme Jonas aussi. Hein? Jonas, lui. Dieu parle à Jonas, puis il dit, « Va-t'en à Ninive. » Ben, Jonas prend le bateau, puis il s'en va l'autre bord. Hein? Hein? La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittaï, en ces mots, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville. » C'était par là, là. « Écris contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de Dieu. Joseph, il aurait pu dire, « C'est trop difficile. Obéir, c'est pas facile. Obéir, c'est pas facile. C'est pas facile. » Mais ici, ça nous montre un exemple d'obéissance. Joseph est un exemple d'obéissance. L'obéissance, ça doit être volontaire. Une obéissance forcée, c'est plus l'obéissance. Tantôt, pendant les louanges, je regardais le petit garçon, ton fils, pendant les louanges, tu sais, puis il s'accotait sur sa main, puis tu sais, ça m'a fait penser à une histoire. Tu sais, il y avait un prédicateur qui était avec son fils, puis son fils jouait tout le temps sur le banc en avant. Puis, il est venu que cette année. Il dit, assis-toi, puis reste tranquille. Puis là, il n'écoute pas le premier tour. Assis-toi, puis reste tranquille. Finalement, son fils s'assit. Fait que là, quand il s'assit après, il dit à son fils, tu oui, c'est pas dur, obéir. Fait que son petit gars, il dit, je t'assis, mais en dedans, je suis debout. L'obéissance, ça doit être volontaire. Le Seigneur, il nous force pas à obéir. Il nous force pas à obéir. Il veut qu'on obéisse volontairement, de tout notre cœur. Il voulait pas forcer, il n'avait certainement pas voulu forcer Joseph à accueillir ce plan qui n'était pas son plan. Mais Joseph l'a certainement accueilli volontairement, le plan, afin que la volonté de Dieu s'accomplissent. Il y a un verset dans Jacques 1:22 aussi que des fois ça me frappe, parce que ça dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. » Puis c'est ce verset-là, il regarde dans son visage naturel, puis moi souvent, je m'en vais dans la chambre de bain, puis je regarde mon miroir dans le visage naturel, puis je m'en vais tout de suite, parce que je ne veux pas voir ça. Parce que les cheveux, ça ne veut jamais se peigner. Hein? Puis ce verset-là, ça me parle, parce que ça dit, faut pas faire ça. Parce que jeter un regard, ça veut dire, il fait juste jeter un coup d'œil, mais qu'il ne va pas jusqu'au bout. Il ne faut pas juste jeter un coup d'œil. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, pas juste jeter un coup d'œil, mais qui aura regardé correctement la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Pas juste jeter un œil, mais de vraiment regarder, de vraiment plonger les regards. Celui-là sera heureux. Joseph voulait dire « Dieu ajoutera ». Ces qualités de Joseph que Dieu avait ajoutées dans sa vie afin qu'elles soient une bénédiction, c'était un homme juste. C'était un homme obéissant. C'était un homme qui a fait confiance à Dieu. C'est ça les qualités que Dieu avait ajoutées. Et contrairement à ce qu'on a vu des valeurs ajoutées au début, où c'était des valeurs ajoutées dans notre société pour le moi, pour l'ego, les valeurs ajoutées dans la vie de Joseph étaient des valeurs ajoutées afin de servir à la louange de la gloire de Dieu. Amen. Et même des fois, Dieu veut qu'on ajoute des choses aussi à notre foi. Dieu veut qu'on ajoute même des choses à notre foi, parce que dans 2 Pierre 1:5, ça dit, je vais le sauter. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Dieu a placé des choses dans nos vies. Dieu a placé tout ce qu'il faut afin qu'on puisse le servir, afin qu'on puisse le suivre, afin qu'on puisse acquérir les promesses. Mais Dieu, des fois, afin que par elle, on devienne participant de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Puis ça dit après, à cause de ça, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, pour ajouter, même pour ajouter à votre foi la vertu la science, à la science de la tempérance, à la tempérance de la patience, etc., etc. Car si ces choses sont en vous, elles ne vous laisseront point oisifs pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand je pensais à Joseph, un homme simple, un homme qui, on ne voit rien de compliqué, un homme qui ne parle même pas, hein, qui n'est pas communicatif à rien. Mais le verset qui me venait à l'esprit, c'est le verset que j'ai sauté. Ça dit, parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Joseph avait de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Parce qu'il était un homme juste, un homme qui voulait faire sa volonté, un homme obéissant, il avait de la valeur aux yeux de Dieu. Et frères et sœurs, en tant que juste, on a de la valeur aux yeux de Dieu. On a de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu nous aime et on a de la valeur devant ses yeux. Et les qualités que Dieu a placées dans nos vies, c'est des qualités que Dieu veut qu'on utilise. Pas pour notre ego, comme on a vu tantôt dans l'introduction, mais veut qu'on utilise pour la louange de sa gloire, afin que Dieu soit honoré, afin que Dieu puisse être béni. Amen. Et aujourd'hui, j'ai parlé de Joseph comme étant une valeur ajoutée. Une valeur ajoutée pour sa famille. Une valeur ajoutée par Dieu afin que Dieu puisse bénir Marie et Joseph et Jésus. Mes frères et sœurs, nous, pendant ce temps des fêtes, des fois dans le temps des fêtes, dans les rencontres de famille, dans les rencontres d'amis, moi, j'avais toujours la façon de, on dirait, de rester low profile, tu sais, puis de ne pas être trop voyant ou trop... Mais Dieu m'a parlé là-dessus. Parce que, frères et sœurs, dans nos familles, on est une valeur ajoutée par Dieu. Et dans nos rencontres cette année du temps des fêtes, dans nos rencontres de fin d'année, soyons la valeur ajoutée de Dieu. Amen. À travers nos qualités, à travers ce que Dieu nous a donné, afin que les gens voient qu'on est transformé, qu'on est changé, afin que ça leur donne, comme on a dit tantôt, que ça leur donne soif, que ça leur donne le désir de devenir semblable à nous. Amen. Et en même temps, semblable à Jésus-Christ. Amen. Pour sa gloire et pour son honneur. Alléluia. On va prier le Seigneur ce matin. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Seigneur, ce matin, Seigneur, on est assemblés, Seigneur, en ton nom, Seigneur. Puis on veut te suivre, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, on a parlé des qualités d'homme juste, des qualités d'obéissant, des qualités de confiance. Et les qualités que tu as mises dans nos vies, Seigneur, les dons que tu nous as fait, Seigneur, c'est afin qu'on te les redonne et que tu sois glorifié, Seigneur. Et je te prie ce matin pour chaque personne dans ce lieu, Seigneur, que dans ce temps des fêtes, ils soient encouragés, qu'ils soient encouragés par ton esprit à être une valeur ajoutée dans leur entourage, à être une valeur ajoutée afin que Christ soit glorifié au nom de Jésus. Alléluia.